RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
GG les grandes gueules avec aujourd'hui Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, Joël Dagosséry, coach de vie, Charles Consigny, avocat. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Tout à l'heure à 11h30, à 11h30, midi moins 20, on discutera avec vous de ce qui se passe aujourd'hui dans la restauration, c'est-à-dire l'essor inarrêtable des fast-food avec maintenant le poulet qui prend le pas, surtout avec le crousty, avec Master Poulet. Et du coup, on va mourir, c'est ce que disent les représentants des bistrots traditionnels. Est-ce que les bistrots, enfin, c'est en train d'être effectivement terrassé par le poulet? Est-ce que ça devient ringard, les bistrots? On en parlera tout à l'heure avec vous vers 11h30. En attendant, on accueille notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France.
Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, bonjour.
Non, mais je devrais immédiatement quitter le plateau, là, me faire recevoir avec cette chanson-là pour commencer.
Bah, c'est la chanson vraiment, qu'on a entendue à Carpentras, Ville-et-Rennes.
Non, mais.
À votre avis, pourquoi?
Parce qu'une association de gauche, qui d'ailleurs a fait un communiqué pour l'expliquer, qui est, je dis de gauche, qui était liée à la mairie de gauche, a expliqué que c'était, entre guillemets, de leur part, une erreur matérielle, et que c'était eux qui avaient, en tous les cas, diffusé.
Et vous croyez à l'erreur?
C'est pas la mairie de Carpentras et son maire Hervé de Lépineau qui l'a diffusé. C'est cette association qui avait les haut-parleurs. Eux disent que c'est une erreur. C'était probablement plus que
ça. Vous pensez que c'était malveillant?
Malveillant. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'entends Édouard Philippe dire c'est le Rassemblement National qui diffuse ça dans ses mairies, à un moment il faut revenir sur terre.
Édouard Philippe, il a dit vous aviez le choix entre la Marseillaise et le Maréchal nous voilà. Vous avez pris cette chanson.
Oui, lui il avait le choix entre le courage et la lâcheté. Il a choisi la lâcheté. Enfin, je veux dire qu'Édouard Philippe rentre pas sur ce terrain-là, s'il veut aller à l'Élysée. Je pense que vraiment le terrain des fake news, pour quelqu'un qui a la dimension, qui imagine avoir la dimension d'Édouard Philippe, c'est pas le terrain de jeu dans lequel il devrait
s'avancer. Non, on ramène toujours le Rassemblement National à Pétain, à la France de Vichy.
Oui, faut bien faire peur. Faut bien faire peur. Enfin, c'est ridicule.
Donc notamment. Ça commence un an avant la présidentielle.
Oui, on a bien compris.
Les esprits,
en fait,
c'est ça,
quand il n'y a pas de débat d'idées, il y a la diabolisation, où il y a tout simplement les faisceaux qui vont sur d'autres sujets qui ne sont pas des sujets qui intéressent les Français. Moi, je veux bien le débat d'idées, surtout sur l'emploi, l'Europe, la sécurité, etc. Mais le reste, sincèrement, entre les caricatures, les fake news, etc., ça prive les Français des débats d'idées et des solutions pour notre pays. Alors que peut-être que Monsieur Philippe, puisque c'est lui qui est monté au créneau, n'a pas d'idées en réalité à proposer et qu'il estime que le Rassemblement National doit être caricaturé, doit être... je pense qu'en fait, en faisant ça, il prive les Français du débat. Oui,
Nathalie Loiseau, qui est soutien d'Édouard Philippe, écrit sur Twitter, vous la sentez depuis hier, la fébrilité du RN dans le discours d'Édouard Philippe à Reims. Maintenant, c'est le RN au bord de la crise de nerfs. Quand on pense aux choses sérieuses, c'est clair, Édouard Philippe est largement au-dessus du lot. Voilà, vous êtes fébrile.
Bon, quand on pense aux choses sérieuses, on pense pas à Nathalie Loiseau. Vous savez, c'est Nathalie Loiseau qui a commencé, quand elle était étudiante, à militer au GUD. À chaque fois, elle le conteste, mais il y a des photos, etc., d'elle dans les organisations d'extrême droite. Ça la rend totalement hystérique quand on lui rappelle ça. Donc, qu'elle soigne ses névroses, Mme Loiseau, vis-à-vis des mouvements d'extrême droite dans lesquels elle a milité lorsqu'elle était étudiante. Et puis, que tout le monde revienne à ce qu'on appelle le débat d'idées. Notre pays mérite ça. Et moi, je ne fais pas, Édouard Philippe, des procès sur des choses fictives qu'il pourrait...
Si Jordan Bardella a tweeté, en gros, qu'il était ringard avec son histoire de réunion d'appartement par visio. Il a dit que c'était la France des années 70 ou 80.
Oui, c'est plutôt mignon. Enfin, je veux dire, c'est un petit clin d'œil pour montrer qu'Édouard Philippe n'est pas un candidat effectivement très innovant, mais il n'est pas non plus dans les idées. Le problème, Édouard Philippe, c'est que c'est pas un candidat qui a beaucoup d'idées, et à part nous ressortir les anciennes.
L'idée, c'est de vous battre.
Oui, mais ça c'est pas une idée pour la France.
De ce qu'on appelle le bloc central, la question est de savoir qui sera le mieux placé pour empêcher le deuxième tour Mélenchon-Bardella et la victoire de Bardella. C'est la question qui obsède les gens aujourd'hui du Bloc central.
Eh bien, qu'ils fassent preuve d'idées tous, les Attal, les Édouard Philippe et autres, parce qu'en fait, moi, je n'entends pas grand-chose dans leur bouche qui puisse résoudre les problèmes économiques, sociaux, sécuritaires du pays. Je vois des gens qu'on a vus à la manœuvre, qu'on a vus au pouvoir. On les a vus exercer le pouvoir. Ils avaient tous les leviers. Regardez, quand on parle de l'Algérie, Édouard Philippe, il avait rencontré deux fois Tebboune. Est-ce qu'il a parlé avec Tebboune des accords de 68? Pas une seule fois. Donc, ces gens n'ont pas d'idées et finalement caricaturent leurs adversaires. Les Français méritent mieux que ça.
Et encore une fois, je le dis. Il assume le fait qu'il a été le premier Emmanuel Macron. Il dit d'ailleurs, ce premier quinquennat, ça a été le quinquennat des réformes qu'il a portées. Il dit qu'avec moi, le chômage a baissé, que la France est redevenue attractive. Donc, il dit, j'ai des résultats.
Non mais Edouard Philippe, c'est le fiasco avec un visage sérieux, avec un air sérieux. C'est-à-dire le pays s'est endetté, le pays s'est insécurisé, le pays s'est affaibli sous l'autorité d'Edouard Philippe. Et c'est des gens qui ont un air sérieux comme ça, qui ont une prestance, des diplômes. Et quand on les a au pouvoir, c'est un enfer absolu, c'est un fiasco total et c'est des résultats pathétiques. Donc on a vu Edouard Philippe. Pas comme s'il n'avait pas gouverné. C'est pas un procès d'intention. Nous l'avons vu à l'œuvre. Nous avons vu ce qu'il voulait faire. On le revoit sur les 80 km/h. Tout le monde s'en souvient de sa gestion totalement hors sol des 80 km/h. J'entendais encore Edouard Philippe dire dans ce meeting en politique, il n'y a pas d'héritage. Il faut faire ses preuves. Mais enfin, il est celui qui a hérité de la mairie du Havre d'Antoine Ruffnac qui lui a donné les clés. Enfin, à un moment, ces gens qui donnent des leçons au monde entier, sans eux-mêmes faire l'analyse critique de ce qu'ils ont fait, de leur parcours. Ils pensent que les Français n'ont pas de mémoire. Édouard Philippe, nous l'avons vu à l'œuvre, et je ne suis pas persuadé, à la fin, qu'il y ait grand monde qui a envie de se retrouver avec Édouard Philippe. D'ailleurs, à mon avis, il ne sera même pas candidat. Il ne sera pas au second tour d'une présidentielle.
Il ne sera pas au second tour, Édouard Philippe.
Non, à mon avis, il ne sera pas au second tour d'une présidentielle.
Pourquoi ?
Parce que je pense qu'ils seront battus par tous ceux qui ont touché de trop près la Macronie, le macronisme, à mon avis, sont vérolés pour très longtemps. Je pense que, et je le regrette pour notre pays, mais je pense que ce sera Mélenchon, parce que le premier
Mélenchon,
tour, c'est la conclusion des cinq
rêvez,
années.
Vous rêvez
c'est
Mélenchon
pas, non, mais
deuxième
c'est,
tour.
Non, c'est pas ce dont je rêve forcément pour mon pays. Non, je pense que Marine Le Pen le dit elle-même, elle dit que ce serait beaucoup plus clair et intéressant d'avoir un débat face à Édouard Philippe. Mmh. Évidemment, parce que ce serait pas une élection faite sur juste le rejet et la peur. Avec Mélenchon, c'est une élection qui se fait sur le rejet et la peur. Mais je crois que malheureusement, les cinq années passées se concluent normalement par l'accès au second tour d'un Jean-Luc Mélenchon. C'est la conclusion de la décomposition de la gauche et du Bloc central. Mais je pense qu'en revanche, le débat, si Édouard Philippe sort de ses fake news, le débat avec Édouard Philippe, il serait plus intéressant et beaucoup plus légitimement dans le cadre d'une élection présidentielle.
Charles ? Non, je suis d'accord sur le rejet du Bloc central. C'est vrai que les gens en ont ras-le-bol et veulent passer à autre chose. Moi, le problème que je vois au Rassemblement national, c'est toujours le même. C'est que, un, vous n'avez pas de programme sur les questions sérieuses économiques et sociales. C'est-à-dire, je vais expliquer pourquoi.
Oui, ça m'intéresse.
Et deux, vous n'avez pas de candidat. Vous n'avez pas de programme parce que vous proposez en gros la continuation du merdier dans lequel on est. Vous n'avez aucun courage réformateur. Vous ne comptez pas baisser sensiblement les dépenses publiques. Vous ne comptez pas réduire le nombre de fonctionnaires. Vous ne comptez pas augmenter le temps de travail. Vous ne comptez pas avancer l'âge de départ en retraite. Donc vous ne comptez rien faire de ce qu'il faut faire réellement pour essayer de sortir ce pays de son déclin. Et vous n'avez pas de candidat parce que je suis désolé, mais votre candidat, il est trop jeune, trop inexpérimenté, trop court pour le poste. Et donc, à mon sens, vous êtes dans une espèce d'impasse qui fait qu'effectivement, en fait, votre planche de salut, c'est Mélenchon. C'est-à-dire que si Mélenchon est au second tour face au jeune Bardella, Bardella aura tout loisir de caricaturer Mélenchon ou même de décrire Mélenchon tel qu'il est et il sera probablement élu contre Mélenchon. Mais si c'est qui que ce soit d'autre que Mélenchon contre Bardella, à ce moment-là, vous loupez encore la marche.
Je crois pas du tout. Mais en fait, je suis en désaccord, Charles, sur l'ensemble de ce que vous avez dit. D'abord, je pense qu'on a un programme. D'ailleurs, on nous en fait suffisamment le reproche. En fait, vous me dites que vous n'avez pas d'idée ou pas de programme. Mais si on en a un,
pas le bon programme.
Ah voilà. Ça, c'est autre chose. Un programme qui peut être contesté. Mais ça, moi, ça me pose pas de problème que ce qu'on propose soit contesté. En matière d'économie, dans le contre-budget qu'on avait fait, Jean-Philippe Tanguy avait fléché 100 milliards d'économies sur un budget. Donc, c'est quand même très important. On avait évidemment, et on a évidemment un programme très différent en matière de relations à l'Union européenne, en matière de gestion de la politique migratoire. Je veux dire, on a des réformes très fortes en matière de pratique du pouvoir avec le recours au référendum. On a évidemment à la fois une pratique et un programme qui est très différent. Peut-être que c'est pas celui que vous souhaitez, mais vous pouvez pas dire qu'on en a pas.
C'est pas celui en tout cas qui est préconisé. Il y a énormément de gens qui s'expriment en ce moment sur ce que la France devrait faire si elle veut sortir de l'ornière. Il y a plein de gens très sérieux, etc., qui sont pas forcément des macronistes sortants, qui sont des économistes objectifs, qui sont des Européens, qui sont des Américains, etc. Plein de gens regardent. Préconise un traitement en gros pour la France, ça n'est pas celui que vous reprenez dans votre programme.
Non, mais moi je peux entendre qu'il y ait des gens qui sont pas d'accord avec nous, mais moi je considère qu'on a un programme qui est, c'est vrai, une rupture par rapport à la politique que nous connaissons depuis 40 ans ou bah, 50 ans. Bah si, en matière migratoire, sur le régalien, en matière économique et sociale.
Oui, mais vous dites vous-même sur le migratoire, sur le régalien, pas sur l'économie.
Je veux dire, en matière économique et sociale, c'est pas parce qu'on a une conscience sociale assez aboutie qu'on n'a pas de programme économique.
Le RN, il est de gauche ou de droite?
Alors, j'y viens. Et juste sur les candidats,
Si Marine Le Pen peut concourir.
On est même le seul mouvement politique qui a aujourd'hui deux candidats possibles. Il se trouve que c'est quand même assez original que ce soit. C'est original que dans une démocratie, à la fin, ce soit la justice qui décide du candidat à l'élection présidentielle du premier parti politique de France. Parce qu'à la fin, c'est quand même ça. C'est la justice qui va autoriser ou pas Marine Le Pen à concourir. Et si la justice n'autorise pas Marine Le Pen, sanctionne Marine Le Pen et l'empêche de concourir, alors Jordan Bardella va prendre le relais. Mais ça devrait quand même poser question. Je sais que vous l'avez déjà dit, ça pose aussi question dans une démocratie. Droite ou de gauche. Vous savez ce que disait Pierre Desproges, à part la droite, il n'y a rien au monde que je méprise plus que la gauche. C'est Pierre Desproges qui disait ça. En fait, moi, je veux dire, le Rassemblement National, il a évidemment des chromosomes de droite sur un certain nombre de valeurs. L'autorité, le travail, le mérite, c'est en général des valeurs qu'on rattache à la droite. Mais il a une conscience sociale qui est très aboutie, ce qui fait qu'il ne peut pas être réduit à la droite. C'est-à-dire qu'effectivement, et d'ailleurs Charles Poncine dit toujours qu'on est de gauche, on n'est pas de gauche, on a une conscience sociale.
C'est vrai qu'on considère droite et sociale.
Et ce qui fait que ça ne nous enferme ni dans l'un ni dans l'autre.
Donc en fait,
ça nous permet
Macron,
de non l'inverse. Non. Non.
C'est du vous trompez tout. Mais non. Ramasser les voix.
Non, vous vous trompez totalement.
Enfin, la conscience sociale, elle démarre à votre implantation dans le nord de la France.
Racontez pas n'importe quoi.
On va chercher le vote ouvrier. Enfin.
Non, mais non.
Elle n'a pas toujours existé.
Mais non. Mais je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, c'est pas Emmanuel Macron. C'était et la droite et la gauche. Rappelez-vous. Et je prends le meilleur de la droite et je prends le meilleur de la gauche. Il a pris le pire des deux en réalité, y compris dans les pratiques. La conscience sociale, en réalité, c'est pas du tout pour ramasser le vote ouvrier. Pourquoi les ouvriers ont été les premiers à voter pour le Rassemblement National, suivi d'ailleurs après par tout le monde de la ruralité? Parce qu'ils ont vu que la politique de Maastricht, qui est une politique plutôt libérale, c'est d'abord celle de la désindustrialisation du pays. Moi, je l'ai vu dans mon territoire du Nord. En fait, ce qu'on a dit aux gens, c'est on va fermer vos usines et en échange, vous aurez une aide sociale. Eh ben, les ouvriers du Nord, ils ont été les premiers à voter pour le Rassemblement National parce qu'on a été les premiers à se mobiliser. Moi, j'avais voté contre Maastricht à l'époque, contre ce traité Maastricht, qui, à mon avis, est d'ailleurs l'un des nœuds gordiens de la politique française. Donc en fait, évidemment, on a cette conscience sociale et on a des valeurs et des chromosomes qui nous relient historiquement aux valeurs de la droite, mais on n'est pas réductible à la droite. Et c'est vrai que ça gêne beaucoup le fait qu'on ait une conscience sociale, mais non, on ne sera jamais pour...
On peut l'entendre, mais du coup, est-ce que ça veut dire que...
Parce qu'on appelle
si c'est
en France
Marine
la
Le Pen...
conscience sociale, c'est en fait le laisser-aller généralisé sur les dépenses
publiques. Pourquoi réduire ça?
L'assistanat, le chèque pour tout...
D'ailleurs, Marine Le Pen a condamné l'assistanat dans son discours... Non mais Marine Le Pen dans son discours de
c'est
Macron
mots, la
a condamné l'assistanat. Marine Le Pen dans son discours et pourquoi, je vais vous dire, moi qui suis élu d'un territoire très populaire, les classes populaires détestent l'assistanat. Les gens qui se lèvent le matin pour aller bosser, qui vont dans des usines par exemple de l'automobile dans le nord, eh bien c'est ce que Marine Le Pen a exactement expliqué. Mais il faut écouter aussi ce que disent nos candidats et Marine Le Pen dans ses discours. Nous on souhaite de la croissance, on n'est pas pour la décroissance, on n'est pas pour le droit à la paresse. Mais ça veut dire quoi, Charles. Vous dites c'est des paroles. Ça veut dire quoi, supprimer un million de fonctionnaires? Pourquoi un million? Pourquoi pas deux? Pourquoi pas 500 000?
Parce qu'on a un million de fonctionnaires en plus qu'en Allemagne, alors qu'ils ont 15 millions de plus.
Charles, quel fonctionnaire? Dans quoi? On a besoin de policiers et on a besoin d'infirmiers. On n'a pas besoin de suradministration du pays. Mais ça, on est d'accord. Donc, mais par contre, on a besoin de policiers et on a besoin d'infirmiers. On est d'accord aussi.
Bon, bah alors. Mais par exemple, le nombre de postes de gens qui font que de l'administratif dans l'éducation nationale, je suis désolé, virez-les. Gens qui font que de l'administratif dans la santé, virez-les.
Et je viens de vous dire qu'il fallait.
Les gens qui sont deux fois trop nombreux à Bercy, virez-les.
Mais en fait, vous ne nous écoutez pas. En fait, vous ne nous écoutez pas. Vous ne nous écoutez pas, vous nous caricaturez. Mais non, la preuve, je viens de vous dire qu'il y avait une fonction publique dont on avait besoin. Il y a une fonction publique qui suradministre le pays dont nous n'avons pas besoin. Donc évidemment.
Quand on dit ça, elle dit c'est des trucs de droite. Elle a dit ça à texto.
Mais parce qu'en fait, quand on vous entend, vous dites, allez, un million, tout le monde dehors, etc., à l'âge. Mais moi, je vais vous dire, c'est pas de l'âge qu'il faut. C'est du sur-mesure. C'est de la dentelle qu'il faut pour notre pays.
Si on en est là. Je pense qu'on est au stade de la gangrène et qu'il faut amputer.
Je vais sortir un peu de la politique politicienne et pendant les élections présidentielles, j'espère qu'on va parler d'avenir, notamment d'avenir technologique, d'innovation. Et j'aimerais connaître un peu quelles sont vos solutions. En France, on manque d'ingénieurs. On a eu le président, je crois, de Thales qui s'est exprimé dessus. Et les chefs d'entreprise ne cessent de parler de cela. On forme 42 à 45 000 ingénieurs en France. La Chine en forme plus d'un million. Les États-Unis, plus de 250 000. Donc on est en train de se faire carrément écraser, bouffer. On est presque mort dans le film. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est si dans votre politique migratoire, vous prévoyez quelque chose pour attirer de nouveaux talents, ou si dans votre politique éducative, vous prévoyez quelque chose pour former plus d'ingénieurs, puisqu'il nous faudrait à peu près 25 000 ingénieurs en plus. J'ai l'impression qu'on n'en prend pas le chemin. Donc qu'est-ce que vous proposez dessus? Par exemple, les États-Unis, eux, ils ont leur visa H-1B pour attirer des talents, puisque même avec leurs 250 000 ingénieurs, ça n'est pas suffisant pour alimenter la machine. Donc comment vous comptez-vous relever ce défi au RN?
Bon, moi je crois que en fait les gouvernements qui sont succédés, la France a loupé plusieurs virages en ce qui concerne deux types, j'allais dire, de fonctions dans notre pays. Vous parlez des ingénieurs. Moi, je pense que l'enjeu demain, c'est l'intelligence artificielle. C'est tous les gens qui vont de près ou de loin travailler dans l'intelligence artificielle. Il y aura des ingénieurs, il y aura des data analystes, il y aura des métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut les anticiper. Mais de l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne, il faut aussi former des gens, des métiers de la main, des serruriers, des chaudronniers, etc. On a totalement loupé. Et je rappelle que les crédits sur l'insertion et la formation professionnelle aujourd'hui sont en baisse dans le budget de Monsieur Lecornu. Donc on n'en prend pas le chemin. De l'autre côté, vous dites qu'il faut les faire venir. Moi, je ne crois pas du tout à ça. C'est comme l'histoire des médecins.
Je dis ça, est-ce que vous comptez?
D'accord. Donc, comme l'histoire des médecins, on dit qu'il faut faire venir des médecins du monde entier parce qu'on n'en forme pas assez. Il faut en former ici. Ça ne se forme pas en 5 ans, ça se forme en 10 ans, un médecin minimum. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment en prendre la mesure dès à présent. Mais je pense que on nous dit qu'il faut faire venir des gens pour des secteurs en tension. Ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'il y a les mêmes secteurs en tension. Ils sont toujours en tension. On fait toujours venir du monde. Il y a 500 000 personnes qui arrivent par an sur notre territoire. Donc c'est que ça marche pas. Ou en tous les cas, c'est pas les bons. En tous les cas, ça fonctionne pas. Et de l'autre côté, je vais vous dire, attention, tous les pays à qui on va dire venez, amenez vos ingénieurs, vos médecins. Mais un jour ou l'autre, ils nous en font le reproche, madame, de les dépouiller de leur intelligence, de leur force de travail. C'est à nous aujourd'hui de faire entrer et de former plus jeunes les jeunes sur le marché du travail et de les orienter ou dans les métiers de l'avenir, intelligence artificielle, ingénieur, etc., ou au contraire dans les métiers du nécessaire besoin d'aujourd'hui.
On a 15% des jeunes ingénieurs qui vont travailler ailleurs, hors de nos frontières. Et justement, Charles vous alertait sur votre incapacité à remettre en cause le système qui justement fait partir tous ces talents. Donc comment vous faites sans remettre en cause ce système et en même temps produire beaucoup d'ingénieurs, ne pas en faire venir? Vous voyez, il y a quelque chose quand même.
Oui, regardez, on avait une proposition dans le programme de Marine Le Pen en 2022 qui était celle d'exempter de l'impôt sur le revenu tout jeune qui créerait une entreprise, etc. C'était aussi pour faire en sorte que des jeunes qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale restent en France. Eh bien, je pense que c'est une voie à suivre.
Sébastien Chenu reste avec nous dans un vice-président du Rassemblement National. Dans un instant, on continue la discussion, notamment sur les problèmes de financement. Comment allez-vous financer votre campagne électorale, puisque les banques ne veulent toujours pas vous prêter. Il est 11h20, restez avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
One, two, three, Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec l'avocat Charles Consigny, Joël Dagosséry, la coach de ville, agriculteur Didier Giraud, puis notre invité et Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement National. Le maire de la France Insoumise, Bali Bagayoko, vous l'avez entendu, il évoque une insurrection populaire en cas de victoire du Rassemblement National, dit-il. Soit c'est nous, soit c'est eux, mais ils auront peut-être la légitimité, ils n'auront pas la popularité. Qu'est-ce que vous lui répondez, monsieur le maire de Saint-Denis?
Hier, j'ai dit sur l'une de vos antennes amies qu'il me rappelait la citation qu'on entend dans le film Des rayons et des ombres de Raymond Lindon, le magistrat qui dit « Les mots des salauds arment les bras des imbéciles ». Et en fait, Bali Bagayoko dit tout haut la violence avec laquelle LFI se construit, avec laquelle LFI entend empêcher l'expression du suffrage universel. Moi, je reconnais à M. Bagayoko d'être maire de Saint-Denis. Il a été élu, avec beaucoup d'abstention, mais il a été élu, et je ne conteste pas son élection. Or, lui est en train de nous dire, si demain, une majorité de Français vote pour le candidat ou la candidate du Rassemblement National, que celui-ci gagne, eh bien, quand bien même une majorité l'aurait décidé, il fera en sorte que la minorité conteste élection par une insurrection, c'est-à-dire par la violence. Car l'insurrection, c'est la violence, c'est une forme de violence. Et en cela, il nous démontre que la France insoumise n'est pas démocrate, évidemment, n'est pas républicaine. Pas républicaine, on le sait, parce que M. Bagayoko, ça fait longtemps qu'il tape sur un peu près tout ce qui tient encore l'édifice républicain. Vous savez, c'est lui qui demandait que la police municipale fasse allégeance lorsqu'il est devenu maire de Saint-Denis. C'est lui qui enlève les portraits d'Emmanuel Macron. Moi, j'aime pas voir la tête d'Emmanuel Macron quand je vais dans une mairie. Ça me réjouit pas. Mais en fait, je vois pas la tête d'Emmanuel Macron. Le président de la République. Donc voilà, c'est ça une démocratie. Et bien lui conteste et sape tout ça. Et en fait, il est un peu l'idiot utile de la France insoumise parce qu'il dit tout haut ce que Jean-Luc Mélenchon, il envoie des signaux.
Si Jean-Luc Mélenchon arrivait à l'Élysée, vous appelleriez au calme ?
Bien sûr, nous, on respecte le suffrage populaire. On n'a pas appelé... Regardez les maires LFI. Lorsqu'ils ont été élus, c'est un peu comme des espèces de conquêtes territoriales. Ils ont humilié les maires sortants qui avaient été battus lors de la première séance du conseil municipal. Ils les ont fait sortir sous les crachats, sous les insultes. C'était extrêmement violent. Nous, on a des élus à Roubaix. Céline Saya qui mène notre opposition. C'est un maire LFI. Elle n'a pas contesté. Il y avait énormément d'abstention aussi. Elle n'a pas contesté. Elle se bat politiquement contre le maire LFI de Roubaix.
Vous parliez d'Edouard Philippe en estimant qu'il devait faire des propositions. Alors, il y a Bruno Retailleau qui était ici la semaine dernière. Lui, il a fait une proposition. Il veut plafonner à 70% du SMIC toutes les aides sociales. Il veut les regrouper et les plafonner pour que le travail rapporte mieux et plus que les aides sociales. Vous êtes d'accord avec cette proposition?
Non, nous, on a une autre proposition qui est ce qu'on appelle la priorité nationale, c'est-à-dire faire en sorte que les aides sociales non contributives soient réservées aux Français. Donc chacun est dans son couloir. Je pense que les usines à gaz de Monsieur Retailleau, à la fin, n'obtiennent pas les résultats escomptés. Donc voilà, moi je pense que lorsque on contribue par son travail, etc., on a le droit d'avoir une aide sociale lorsqu'on est au chômage, même si on est étranger, puisqu'on a contribué à la richesse, pas de problème. Lorsqu'on arrive du bout du monde et qu'on obtient simplement un certain nombre d'aides sociales, c'est aussi des aides en matière de logement, etc. Eh bien, je pense qu'effectivement, ça pose un problème.
Sur le carburant, pour l'instant, Sébastien Lecornu reste fidèle à sa stratégie des aides ciblées, pas généralisées, même s'il va élargir, semble-t-il, ces aides ciblées à d'autres professions, et ça sera sans doute annoncé cette semaine. Il a raison, parce qu'on n'a plus les moyens d'arroser tout le monde, si j'ose dire.
Bon, d'abord, vous dites on n'a plus les moyens d'arroser tout le monde. Ça veut dire qu'en fait, les Français sont deux fois victimes. Victimes de la gestion catastrophique du pays par les macronistes depuis 10 ans, qui ont ruiné le pays. Donc, à partir du moment où ils ont ruiné le pays, on ne peut plus rien entreprendre. Et en cas de coup dur, comme c'est un coup dur en tous les cas que ce conflit en Iran, eh bien on ne peut plus aider les Français, ou en tous les cas
ça veut dire qu'ils ont ruiné le pays.
Ça veut dire qu'il faut en réalité des mesures pérennes. Nous, on est pour la baisse de la TVA sur les énergies, c'était déjà dans le programme de Marine Le Pen en 2022. Et ça, c'est le résultat, c'est que ces gens n'ont pas fait de choix, en réalité n'ont pas eu de courage, et donc résultat, ils en sont à mettre des rustines. Mais ce que je vois surtout, c'est que Lecornu, il cherche à gagner du temps. Tous les jours, il diffère, d'ailleurs, vous avez remarqué. Tous les jours, il dit, attends, l'aide, on y réfléchit, ce sera pour demain, ce sera pour après-demain. On
l'annonce pas.
Là, c'est l'antivirus, et puis ce sera encore autre chose. Parce qu'en fait, chaque jour qui passe, évidemment, c'est de l'argent en moins à dépenser au bénéfice des Français. En fait, ce qu'il faut, c'est des mesures pérennes, c'est des mesures qui durent dans le temps. Les autres pays européens, pas tous, mais de façon très différente, l'ont fait. Ils ont aidé ou baissé les taxes.
Déjà, en Espagne, du maire, enfin, en temps normal, on paye moins cher l'essence en Espagne.
Oui, mais on la paye plus cher en Allemagne.
Oui, en Allemagne, on la paye plus cher, mais en Espagne, en Italie,
j'avais une question justement par rapport à ça. On a évoqué un peu le fait que ça pouvait être ou Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui se retrouvent à l'Élysée demain. Et qu'est-ce que ça change vis-à-vis de la position que vous avez à l'Europe? Parce que moi, j'ai le sentiment que les deux, ils ont pas exactement le même discours sur l'Europe. Et comment demain la France peut exister, avec, contre, je sais pas comment faut dire, contre l'Europe, pour construire à la fois un peu d'autosuffisance alimentaire, un peu d'indépendance industrielle, un peu enfin les sujets qui vous tiennent à cœur. Comment on fait pour le faire contre l'Europe? C'était ma question.
Bon, d'abord, ils ont défendu, Jordan et Marine défendent le même programme aux élections européennes, ils défendent le même programme aux élections nationales, ils défendent les mêmes programmes, les candidats du Rassemblement national défendent le même programme. Vous savez, la France est le deuxième contributeur de l'Union européenne. Donc à partir du moment où la France, à la table des négociations européennes, dit écoutez, nous on va ou moins contribuer, ou cette année on ne va pas contribuer, on ne va pas mettre 6 milliards de plus parce qu'on n'en a pas les moyens, ça change considérablement les rapports de force. De toute façon, tout n'est que rapport de force dans la vie. Donc à partir du moment où vous entretenez un rapport de force avec l'Union européenne en disant, écoutez, nous on veut récupérer des leviers de souveraineté, on veut récupérer de la, on veut qu'il y ait moins de normes, par exemple sur l'industrie, je pense par exemple à l'industrie automobile qui sont en train de couler, ou alors sinon on va contribuer moins. Bah, croyez-moi que l'Union européenne déjà va bouger un peu, et en plus on n'est pas seul.
Mais comment vous allez trouver le financement pour la campagne électorale présidentielle, puisque les banques ne veulent pas vous prêter? Alors vous, grâce à vos députés, votre groupe, vous avez quand même de l'argent de côté, j'imagine. Combien vous avez le Rassemblement national dans les caisses aujourd'hui, vous le savez ou pas?
Mais je vais vous dire, on a toujours pu compter que sur nous-mêmes.
Oui.
C'est pas la première fois. Que...
Vous avez de l'argent de côté, Monsieur Chenu, là.
Pas fait les comptes, je suis pas trésorier du parti. De toute façon, on a été présent à tous les rendez-vous électoraux depuis toujours. Donc, on sera encore présent. Mais la difficulté qui est la nôtre,
si vous prenez, vous ramassez une amende copieuse au procès de Marine Le Pen. Là,
la difficulté qui est non, ça c'est déjà fait, ça a été réglé.
Ah bon,
la difficulté qui est la nôtre devrait interpeller tout le monde, que le premier parti de France, en termes de militants, d'élus et de résultats électoraux, je ne parle pas des sondages et je ne me projette pas, rencontre autant de difficultés à trouver une banque française pour le financer. Mais ça devrait scandaliser
comment
tout le monde.
Faire, alors
la réalité, c'est qu'il faut une
banque. Le président de l'association des banques dit qu'il ne trouve pas ça normal, d'ailleurs, il l'a dit.
Oui, il n'a qu'à s'activer un peu et convaincre, parce qu'il est mieux placé que moi, probablement, pour convaincre les banques de nous prêter. D'autant
François
qu'il y a
Bayrou avait proposé une banque publique
de la démocratie.
Oui, il ne l'a jamais fait vivre. Il l'a mis en place. Donc, effectivement, il faudra que nous nous débrouillions, il faudra que nous trouvions des partenaires, des soutiens. On les trouve souvent d'ailleurs.
Ou pas
D'abord en France. Ouais. On les trouve d'abord souvent chez nos propres militants et adhérents, que je remercie, les adhérents et les militants du Rassemblement National.
Monsieur Stérin, ça peut être un financier du Rassemblement National pour l'Assemblée nationale. Pour la présidentielle.
Marshall, les dons sont plafonnés. Si à titre personnel, il voulait faire un chèque, il sera de toute façon plafonné au même montant que n'importe quel Français. Donc il faut arrêter de fantasmer sur ils sont dans la main de milliardaires X ou Y, on est dans la main de personne. Et d'ailleurs, on n'a pas d'ascenseur à renvoyer. On est probablement d'ailleurs les seuls à ne pas avoir d'ascenseur à renvoyer à quiconque.
Une question sur l'antivirus, parce que on s'interroge de nouveau un virus sur notre territoire, puisqu'il y a un premier cas français a été officiellement constaté et annoncé par les autorités. Cette personne faisait partie de ceux qui ont été rapatriés par avion après avoir été évacués par ce navire qui était en croisière. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que les autorités pour l'instant sont dans le bon ton, agissent bien? Est-ce que ce qu'on met en place est nécessaire, suffisant? Vous feriez quoi à leur place?
Nous d'ailleurs, avec les députés du Nord, à l'initiative d'Alexandre Dufossé, mon collègue député de Cambrai, on vient d'interpeller la ministre de la Santé à ce sujet-là. On peut être légitimement inquiet, comme le sont les Français, en se demandant si effectivement ce virus a une létalité forte. Vous me disiez hors antenne que oui. J'avais entendu exactement l'inverse sur une autre antenne. Donc j'ai l'impression qu'on n'est pas bien, qu'on ne tire pas forcément les conséquences du Covid.
Donc, faut faire œuvre de pédagogie.
Mais surtout, là où je ne suis pas rassuré, c'est un peu, vous savez, c'est comme dans le dîner de cons. Ce qui m'inquiète, c'est pas la stratégie, c'est le stratège. C'est-à-dire que ce gouvernement, en réalité, je peux pas vraiment lui faire confiance dans sa capacité à avoir une stratégie, une réponse qui me rassure. Je ne leur fais pas de procès d'intention, pas du tout à Madame Rist. Je la laisse travailler sereinement, mais je suis presque plus inquiet par la stratégie gouvernementale et leur capacité à répondre que par le virus lui-même.
Est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment de masques?
J'en sais rien, j'ai pas fait le décompte, vous l'avez, vous?
Le gouvernement dit que oui, bon. Que désormais on a les masques.
Donc ça veut dire probablement que non.
Voilà, c'est ça la réponse. aucune confiance. Mais alors, vous êtes
Ah non, mais j'ai pas confiance dans ces gens qui nous gouvernent.
Et pour les Français qui nous regardent, que va-t-il se passer à l'Assemblée nationale jusqu'à la présidentielle? Que va-t-il?
Bah, il y a un certain nombre de textes.
Bah, déjà, il y aura 38% de morts. Si on en croit les chiffres,
c'est un pas.
Il y a 38% de l'Assemblée qui va. Hein,
voilà.
Donc, faudra des légères.
Alors,
il y a un certain nombre.
Vous savez,
nous ne sommes pas maîtres de l'ordre du jour. Nous, des textes à proposer, on en a des palanqués. L'augmentation des salaires de 10% en échange du gel des cotisations patronales. On aimerait ouvrir un débat sur les salaires. On aimerait sur les questions de sécurité. Là, il y a une mini-loi qui arrive de Nunez.
Il
ne
va rien se passer.
Et donc, forcément, ce gouvernement, c'est un gouvernement des affaires courantes. Sébastien Lecornu, depuis qu'il est là, de toute façon, il est là pour gagner du temps. D'ailleurs, il le fait très bien. Parce qu'il est là et il va durer jusqu'à la fin. Donc il ne fait rien et c'est les Français qui, à la fin, payent l'addition.
Du coup, ceux qui
ne font rien, il le fait bien de rien faire. Mais si on a besoin de rien, il faut payer le corps.
Au lendemain de la dissolution, ceux qui disaient il ne va rien se passer jusqu'à 2027,
On nous a rionné.
Moi, j'en fais partie. On nous a rionné autour de ce plateau.
Ah bon,
mais en même temps, il va rien se passer du tout, quoi.
Eh bien non, parce que ce gouvernement a choisi finalement de laisser les Français à leur triste sort.
Une dernière question, parce que ça sera notre prochain sujet de discussion. Vous avez déjà goûté Master Poulet ou Consti Poulet ou pas? Vous allez le faire?
Bah oui, moi je veux bien manger du poulet, oui.
Est-ce que ça vous dérange
si j'attrape pas l'antivirus par cette voie-là?
Alors là, il y a un risque. Parce que l'antivirus, il vient.
Il paraît que les symptômes, c'est d'être un peu fatigué le lundi en fin de matinée.
Ah, c'est, donc ça va pas bien pour toi.
Je sais pas si.
Vous êtes plus
Charles. Bah moi, je suis dans. Mais j'ai pas. Il y a les comorbidités qui jouent. Je pense qu'on n'est pas concerné ici. Sauf
non, mais vous ne serez pas contre goûter quand même.
Vous partez pas en guerre.
Non, enfin, je ne suis pas contre goûter. Je n'ai jamais d'a priori et je ne me forge un avis qu'après avoir moi-même testé.
Et pour de bon, vous goûterez pour de bon ou pas?
Non,
mais
pour de bon. Parce que le maire de Saint-Denis
va sortir le sac.
Merci.
Merci Sébastien Chenu.
À la tarte au maroilles. Justement, dans un instant, ce sera notre sujet de discussion. Bistrot, café, la restauration traditionnelle devient-elle ringarde avec toutes ces nouvelles enseignes? C'est au 32-16 que ça se passe, il est midi moins 25.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Il y a quelques réactions là qui arrivent justement sur notre WhatsApp des GG des grandes gueules pendant qu'on salue Sébastien Chenu. C'est en direct sur RMC. C'est Dim qui m'écrit: Monsieur Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis montre le vrai visage de la France insoumise. Si jamais ils arrivent au pouvoir, nous aurons une dictature sauvage. Malheureusement, tout le monde sait, c'est ce que m'écrit Martial aussi. Si le Rassemblement national gagne la présidentielle, dès le lendemain, on aura la pagaille généralisée et orchestrée dans tout le pays. Alors on se fait notamment taper dessus, c'est Michel qui dit bravo les grandes gueules pour la musique, Maréchal nous voilà, d'introduction de Monsieur Chenu. C'est la honte. Vous parlez souvent de l'idéologie de France Télévisions, mais là vous découvrez ouvertement avec cette entrée en matière. Vous êtes des pseudo-journalistes qui vous seriez couchés devant Mitterrand en acceptant de vous taire sur sa fille en échange d'avantages fiscaux. C'est une forme de collaboration. Respectez la parole de chacun sans chercher à la nuire. Voilà ce que nous écrit Michel sur le WhatsApp des GG. Il est à votre disposition tout au long des émissions d'RMC depuis la pré-matinale jusqu'à la dernière émission, jusqu'à l'after.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, avec aujourd'hui Charles Consigny, Didier Giraud et avec Joël Dagosséry. Je propose là sur les 10 dernières minutes de nous rejoindre au 32-16 pour parler du futur de la restauration. Alors, futur de la restauration.
C'est un sujet de société important, à savoir que demain, on va avoir une clientèle qui va aller vers la malnutrition, et puis une autre clientèle qui va aller pour le bien manger, mais à quel prix? Et nous, au milieu, les bistrots, les cafés, qui représentent aujourd'hui la majorité de la restauration traditionnelle, on est en train de disparaître. Alors, on essaye effectivement de répondre, mais nous, pour faire la cuisine, on a des coûts. On a des coûts, on a la pertinence du geste, on a des charges qui sont très supérieures. Demain, il va falloir bien comprendre qu'il y aura une restauration pour les gens avec des difficultés de pouvoir d'achat, et puis il y aura une autre restauration pour les gens aisés. C'est terrible, c'est un choix de société.
Donc vous les abandonnez.
Alain Fontaine, le maître restaurateur, il a un bistrot qui s'appelle le Mesturé à Paris. Il tient au fait maison, à la bonne bouffe, à la bonne chair, au bistrot. Mais est-ce que les bistrots ont encore un avenir?
Alain Fontaine, c'est un ami des GG, mais c'est vrai que le constat, il est quand même implacable. Aujourd'hui, les fast-foods représentent plus de 50% du marché de la restauration. Donc les fast-foods sont déjà en domination du marché. On va plus au fast-food que dans un restaurant traditionnel. Et c'est générationnel. Donc les nouvelles générations qui ont grandi avec les fast-food, est-ce qu'ils se mettront tout d'un coup à aller dans les bistrots plus tard? Ça me fait penser à tous ces jeunes qui ne regardent pas la télévision à 20 ans. Je les vois mal regarder la télévision à 40, mais peut-être. Hein. Donc effectivement, La Fontaine, il dit, on va arriver à un système où la majorité ira donc au fast-food, et puis ceux qui ont peut-être les moyens et un peu plus âgés, ben continueront à aller dans les restaurants, parce que un menu McDo à 5€, ben forcément un restaurateur traditionnel et même un bistrot de quartier ne peut pas rivaliser. Alors on peut bien sûr parier sur la qualité, sur les produits, etc. Mais ce n'est pas suffisant, parce que les gens, contrairement à une idée reçue, les gens qui vont chez McDo, ils n'y vont pas simplement parce que c'est pas cher, mais parce qu'ils y vont, parce qu'ils sont contents d'y aller. Ils y vont en famille. Quand vous dites aux enfants, on va chez McDo, c'est bon. Les enfants, ils disent c'est génial, c'est super, etc. Mais je veux dire, il faut avoir on a beaucoup combattu la restauration rapide sur simplement l'histoire, c'est pas bon, mais la malbouffe, c'est un argument qui ne prend plus, en fait.
Didier, avant d'écouter Aurélien, restaurateur.
Oui, j'ai écouté en longueur, monsieur Fontaine. Et je pense que tu peux aller plus loin dans ton argumentaire, Olivier. C'est que, y compris dans une partie de la restauration traditionnelle, c'est pas bon non plus, quoi.
Ah, en plus.
Et je pense que sauver des gens comme Alain Fontaine, moi je reste persuadé à l'étiquetage vrai, quoi. C'est qu'à un moment donné, il y ait des labels qui sont du fait maison. Alors ça existe, hein, ces labels-là, mais qu'on fasse le tri entre des restaurateurs ou des bistrotiers qui font du fait maison et ceux que, quand ils sont prêts à te servir l'assiette, t'écoutes le ding du micro-ondes, quoi. Et à un moment donné, il y a aussi à l'intérieur de la restauration traditionnelle du ménage à faire, parce que c'est le restaurateur, c'est le seul métier que tu peux exercer sans diplôme. N'importe qui peut ouvrir un resto. Dans tous les autres métiers, il te faut un diplôme pour faire un métier. Et aujourd'hui, je pense que la profession a aussi besoin de faire son ménage entre des gens qui sont des restaurateurs, qui cuisinent, qui achètent des produits de base et qui cuisinent. Et c'est ça qui les différenciera à la fois, je dirais, de mauvais restaurateurs, hein, et à la fois de la restauration hors foyer, qui certes a rencontré son public, mais qui correspond à une demande qui est pas une demande universelle, quoi. C'est une demande de jeunes, c'est une demande quand tu passes vite, mais il y a encore une demande pour des gens qui cuisinent. Encore faudrait-il être sûr que c'est eux qui cuisinent.
On a Aurélien,
et que c'est pas du décongelé.
Aurélien qui veut réagir.
Je pense que c'est ça qui est.
Voilà, justement, il est restaurateur. Bonjour Aurélien. Alors Crousty, bistrot, qui va gagner?
Les bistrots. Il faut les faire vivre. Je vais juste répondre à Didier. J'ai pas un diplôme dans la restauration, j'ai un bac informatique, mais on fait très bien à manger.
Non, mais c'est pas incompatible.
Non, c'est pas le sujet, c'est pas le
mais
sujet.
Mais c'est plus facile de faire n'importe quoi aussi, quoi.
Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de fast-food. Moi, je prends l'exemple. Nous, on est un petit village, on est à côté de Carcassonne. À Carcassonne, sur un rayon de 2 km, vous trouvez 3-4 fast-food à la ronde. C'est beaucoup, beaucoup trop.
Bah oui, mais ça répond à une demande.
Ouais,
mais
sinon, ils ouvriraient pas. À un moment donné, ils vont tomber aussi parce qu'ils seront pas rentables. Hein.
Allez-y, Aurélien.
Mais aussi, nous, en tant que bistrotier et tout ça, on est là pour faire valoir le produit. On raconte une histoire. On prend pas les gens pour des cons. Et les gens viennent aussi pour ça aujourd'hui.
Et c'est du vrai fait maison ?
Bien sûr, c'est du vrai fait maison. Bien sûr. Nous, on fait des cœurs de canard marinés façon tataki, on fait des nems maison, on fait des grillades avec de l'agneau qu'on trouve à 7 km du cochon au doigt. On essaie de sourcer au mieux les produits locaux. Et ça, on le raconte quand les gens viennent manger au restaurant. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, quand ils vont au restaurant, ils ont envie qu'on les considère.
Qu'on leur raconte une histoire.
De la transparence, d'où viennent leurs produits, quel vin ils vont boire, d'où ça vient, comment c'est cuisiné. Moi, je vais faire entrer en cuisine pour leur montrer où c'est grillé. Les enfants, quand ils viennent chercher des glaces, ben, je leur fais faire à eux pour leur dire, voilà, le glacier de Lézignan, enfin voilà.
Et combien le menu chez vous? Combien le menu
nous,
chez vous?
Nous, midi, on est à 18,50. Ah, et pour répondre à une demande de...
Entrée plat dessert?
Facilité entrée plat dessert, tout à fait.
Ça va, hein. Bravo, hein.
Et pour répondre...
Mais il y en a plein des restos comme ça.
Mais il y en a plein des
en province.
Ça,
il faut... En province?
Ah bah faut sortir un peu de Paris.
Bah oui.
Ah,
c'est
voilà. Sûr. Et nous le
cinquième, ça fait plus cher.
On a liste déconnectée.
On fait de l'emporter avec des burgers maison, avec de la viande qui vient de notre boucher. Tout ça, on répond à une demande aussi d'emporter quand les gens n'ont pas envie de venir au restaurant parce que c'est trop cher. On leur fait de l'emporter et les gens sont contents. Moi j'ai des collègues à moi qui allaient à Carcassonne chercher des tacos et tout ça. Ben maintenant ils viennent prendre un burger chez moi.
Ah bah c'est bien.
Donc voilà.
Alors Aurélien, la parole à la spécialiste du fast-food du croustillé. Qu'est-ce que tu en dis, Joël, notamment en écoutant Aurélien?
Non, mais moi, je fais de tout. Je fais du fast-food comme je fais du bistrot classique. En fait, ce n'est pas les mêmes usages, ce n'est pas pour la même chose. Avec mes copines ou avec... on me vole mes trucs. Avec mes copines ou avec même des fois des déjeuners.
Elle a des fiches pour savoir quoi dire sur Testi Crousti.
Bah, je m'assois en bistrot. Mais on me vole.
Non mais regardez, c'est mignon. Regardez la feuille de préparation de Joël à l'émission.
Oh, j'en peux plus.
Elle t'a piqué une feuille de ta fille, non?
Oui, non, c'est mon cahier.
C'est ton cahier, ouais.
J'écris encore dans les cahiers.
Ça rappelle les
Fontaine. En fait, disait, t'en as rien à foutre.
On s'en fiche.
C'est vrai. Attends.
Non, qu'elle finisse quand même.
Ouais,
non
mais
donc c'est pas les mêmes usages. Donc il y a des et des fois je passe au fast-food. Alors je fais pas de testi crousti et tout, mais les fast-food classiques, les à l'ancienne, du McDo, du KFC, du Popeyes, enfin voilà. Je passe là en rentrant et tout le monde est content. En fait, c'est pas du tout les mêmes usages. La différence, c'est que, par exemple, ma fille, c'est clair qu'elle va jamais s'asseoir en dehors d'être avec nous, avec les parents, dans un bistrot avec ses copines. Non, elle va quand
et
elle
c'est
sort.
Là qu'est le changement.
Elle sort avec ses copines. Ah oui. Oui, mais elle sort avec ses copines dans des fast-food. Par contre, là où je suis certaine qu'à un moment elle viendra au bistrot, c'est parce qu'en fait, nous on l'habitue avec nous. On va dans des bistrots. Donc je pense que elle est déjà habituée à ça, mais c'est pas son truc naturel avec ses copines.
Non, mais il est vrai. Moi, je me souviens au lycée. On allait. Ça paraissait pas extravagant d'aller avec les copains du lycée. Dans des petits cafés pas chers, où on prenait un plat unique, un truc qui coûtait pas plus cher que ce que coûte un McDo aujourd'hui. Et je me souviens très bien que ça paraissait pas extravagant. Alors qu'aujourd'hui, manifestement, pour les jeunes, l'idée de s'asseoir dans un bistrot, qu'un serveur vienne les voir, leur dire ce que vous voulez, etc., ça paraît.
À part les bouillons.
Les bouillons,
le phénomène des bouillons.
Ah ouais, les bouillons, c'est.
Refaire un petit peu la promo des bistrots, je sais pas pareil, tu manges pas avec tes doigts.
Adrien Dubarin, vous avez qu'à la quarantaine, plutôt bistrot ou vous êtes passé fast-food alors?
Les deux en général, en fait. Voilà, je suis client, tout comme avec mes enfants, des fast-food, mais je suis, étant donné que c'est mon activité, je suis hôtelier-restaurateur de métier, reconverti tout bib pour hôtelier-restaurateur, alias consultant. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut que le législateur intervienne.
Il faut réguler les installations, c'est ça?
Je pense. Je vais faire écho à un de vos consultants et j'ai préféré Stéphane Manigold. Moi, je suis de cette obédience-là. En fait, à un moment donné, que ce soit du pouvoir du maire, du pouvoir du préfet, il faut légiférer, il faut numerus clausus. Même si on est dans un pays où il y a la liberté d'entreprendre, je ne suis pas avocat, vous avez un avocat parmi vous.
On est surtout le pays de la régulation, plus que la liberté d'entreprendre.
Exactement. Mais dans quelle mesure peut-on réguler? Et ça va se faire avec ce qui a été dit par l'une de vos vieilles il y a quelques instants, et à l'autre extrémité, légiférer à l'entrée. On est le seul métier où on peut, où Jean-Michel à peu près peut ouvrir son.
Oui, mais faites, faites confiance au client. Je veux dire, c'est le client qui est le roi. Si le resto est mauvais, il y va pas. La régulation, c'est le client qui va le faire.
Et merci surtout, Adrien, vous avez conclu la discussion. Adrien, il est plutôt pour réguler, qu'on fasse un numerus clausus dans les
normes.
Alors, bistrot, café, brasserie, ringardisé par les fast-foods, est-ce que c'est... Bah, vous mettez oui à 57%. Voilà pour les GG aujourd'hui, vous avez les podcasts à votre disposition si vous avez raté l'émission. Et si vous voulez continuer de débattre, de discuter, eh bien Estelle Denis arrive avec toute son équipe, toute sa bande, en direct.
Ne cours pas Estelle, ne cours pas, c'est dangereux.
Bonjour Estelle Midi, Estelle Denis.
On se souvient d'une chute légendaire.
Salut Alain, salut les GG. Écoutez, nous allons évidemment parler de cette épidémie d'antivirus. Une Française contaminée, 22 cas contact. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour gérer cette crise? Ou est-ce que moyen? Je vous rappelle que jeudi, on nous a dit qu'il n'y a aucun problème et que là, tout d'un coup, il y a réunion de crise, etc.
Attends,
bref,
on
c'est
en
la
fait
question
trop.
Qu'on vous posera.
Le vice-président de l'Assemblée nationale nous a dit non.
Oui, enfin bon. Bon, écoutez, je fais confiance aux des épidémiologistes qui sont quand même un petit peu plus alarmants. On parlera d'Emmanuel Macron. Alors, vous savez qu'il a poussé la chansonnette il y a une semaine. Là, il a fait un footing avec Kipchoge, la légende vivante du marathon, à Nairobi, au Kenya.
Il vit sa meilleure vie. Hein.
Vous trouvez ça sympathique ou totalement ridicule? Bah, écoutez, vous nous dites tout, on en parlera à midi et demi. On parlera également de ces 6300 boîtes aux lettres retirées en 2025. Est-ce que la Poste doit arrêter la distribution de courriers? Au Danemark, il y a peu de distribution de courriers, par exemple. Est-ce qu'on
peut
faire pareil en France?
Bah, on
s'écrit
plus. Vous
recevez dans vos boîtes aux lettres encore?
Ouais.
Des lettres d'amour. Joël, des lettres d'amour.
La Poste ne veut plus
d'amour.
Venir chez moi.
Des impôts. Ah oui, carrément.
La Poste ne veut plus aller dans les chemins privés.
Oui, mais est-ce que tu recevras encore des lettres?
Oui. Ah, il faut que j'aille les chercher.
Oui, moi, je
ne
pose pas des lettres.
Ah bah voilà. Et bah,
je vais chercher mon courrier au bureau de poste tous les jours.
Mais franchement, pour deux lettres.
Tous les jours, t'as un courrier.
Pas tous les jours.
Ah non, non, non.
Tu préfères
mots croisés ou mots fléchés? Vous savez que ça revient en force, les deux.
Ah, mots fléchés.
Oh, bah mon si, fléché. Quand même. Bah, c'est intelligent, ouais. C'est des jeux, Alain.
Scrabble.
En plus, c'est ton âge, Alain.
Vous n'avez...
C'est ton âge.
Je devrais chiffrer les lettres.
Je suis l'exception.
Mais c'est de tous les âges.
Il
n'y a pas d'âge.
Mots fléchés.
Oh, stade d'âge à la gorge.
Il va falloir t'y mettre, Alain.
Aucun des deux.
Voilà, comme moi. Pelote. Pelote, voilà. Donc aucun.
Mots fléchés, mots fléchés, mots mêlés.
Allez, bonne émission avec Estelle jusqu'à 15h au 32 7.